depuis qu'Internet révolutionne les relations entre les hommes en faisant tomber les barrières des frontières, nos vies, nos sentiments, notre quotidien risquent de devenir de moins en moins concrets et de plus en plus virtuels.
Principe actif, le mix des cultures.
Internet, c'est en quelque sorte un centre de documentation à l'échelle de la planète.
Il est 9h à Paris, 8h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Vous avez la parole dans 10 minutes, vos questions sur l'actualité et dans 40 minutes, vos réactions au lendemain de la reconnaissance par l'ONU de la traite transatlantique des esclaves comme le plus grave crime contre l'humanité. Mais d'abord, c'est votre journal international. Bonjour Julien Coquelroen.
Bonjour Juan, à la une des négociations qui continuent selon les États-Unis, mais que Téhéran continue de démentir fermement, la confusion toujours totale ce matin autour d'éventuelles discussions pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, même si la Chine évoque des signaux en faveur de pourparlers. Pékin tente de se poser en voie de la désescalade, vous l'entendrez. Dans ce journal également, le démenti de la MINUSCA. Pas de retrait définitif de la mission de l'ONU en Centrafrique, malgré des fermetures de bases ces dernières semaines. La MINUSCA évoque une réorganisation stratégique. Et puis une loi de délation très décriée en Suède. Le gouvernement confirme sa volonté d'obliger les administrations à signaler à la police les migrants soupçonnés de séjourner illégalement dans le pays. Bombardements israéliens sur plusieurs villes iraniennes et des tirs iraniens vers Israël et les pays du Golfe. Ce matin, la guerre au Moyen-Orient entre dans son 27e jour et sa résolution reste pour l'instant une hypothèse bien lointaine. La Maison-Blanche assure que les discussions continuent. Donald Trump estime que les responsables iraniens ne les nient que par peur d'être tués par les leurs, mais le ton reste toujours aussi martial. Du côté de l'Iran qui accuse les États-Unis de préparer l'invasion d'une de ses îles et menace d'ouvrir un nouveau front dans un détroit clé reliant la mer Rouge au golfe d'Aden, l'issue diplomatique semble donc encore lointaine, même si la Chine évoque ce matin des signaux en faveur de négociations entre Washington et Téhéran. Pékin plaide pour le dialogue, Claire Broadhurst.
La Chine tente de se poser en voie de la désescalade au Moyen-Orient. Au téléphone avec ses homologues égyptiens et turcs, le chef de la diplomatie, Wang Yi, affirme que les États-Unis et l'Iran ont envoyé des signaux en faveur de négociations. Des indices encore flous, non détaillés par Pékin, mais présentés comme une possible lueur d'espoir. Dans les faits, le contraste est frappant. Côté américain, Donald Trump assure que des discussions sont en cours. Côté iranien, le ministre des Affaires étrangères dément toute volonté de négocier, affirmant vouloir poursuivre la résistance. De quoi entretenir une incertitude persistante et durable sur la réalité de ces contacts. Dans ce contexte, la Chine martèle sa ligne, encourager le dialogue à tout prix. Pékin appelle la communauté internationale à pousser les deux camps à se parler, estimant que dès lors que le dialogue commence, la paix devient possible. Une position cohérente avec ses intérêts. Partenaire clé de l'Iran, dépendante de la stabilité régionale pour ses approvisionnements énergétiques, la Chine condamne les frappes tout en appelant à éviter toute escalade incontrôlée. Cléa Broadhurst, Pékin, RFI.
Les yeux de la Chine tournaient notamment comme ceux du monde entier vers le détroit d'Ormuz, très largement bloqué par l'Iran depuis le début de la guerre. Il n'est fermé qu'aux ennemis, a déclaré hier le chef de la diplomatie iranienne. Ce matin, la Turquie affirme qu'un pétrolier a été attaqué par un drone naval en mer Noire. Les cours du pétrole sont à nouveau en hausse et les prix des carburants augmentent partout dans le monde. Au Chili, par exemple, plus 32% pour l'essence, plus 62% pour le gazole, du jamais vu en 40 ans. Le nouveau président d'extrême droite, José Antonio Kast, refuse pour l'instant d'activer le mécanisme de stabilisation des prix et les automobilistes en font directement les frais. Reportage à Santiago de notre correspondante Naila de Rouanet.
Dans l'une des stations essence les moins chères de la capitale, le flux de véhicules ne désemplit pas. Tous veulent faire le plein avant que les prix n'augmentent. Piero est livreur à moto. Il a déjà fait son calcul.
Pour compenser la hausse des prix, je vais devoir travailler un jour supplémentaire et ce sera pendant mon seul jour de repos.
Jaime, lui, est chauffeur VTC.
Le prix de l'essence augmente, mais pas le prix de la course sur les applications.
Alors, pour compenser cette perte, il s'apprête lui aussi à travailler davantage.
J'aurai moins de temps pour être avec ma famille car je vais être encore plus dans ma voiture.
Patricio, chauffeur de taxi depuis 33 ans, n'avait jamais vu une telle crise, dit-il. Il en veut au président Cast, alors même qu'il avait voté pour lui.
Il nous a beaucoup promis, mais c'est quand on a vraiment besoin de lui qu'il nous tourne le dos. C'est décevant.
L'administration Cast a décidé de ne pas faire fonctionner le mécanisme de stabilisation des prix, car la situation fiscale héritée du gouvernement de gauche est jugée trop fragile par le ministre des Finances. Et le président Cast d'ajouter.
On ne peut pas acheter de la popularité alors que nous n'avons pas d'argent.
Il y aura toutefois quelques mesures compensatoires, notamment pour les taxis ou encore le gel des tarifs des transports en commun. Naïla de Rouen et Santiago, RF.
La hausse des prix du pétrole et plus largement la guerre au Moyen-Orient, au cœur de deux jours de réunions qui commencent aujourd'hui en France. Les ministres des Affaires étrangères du G7 se retrouvent près de Paris. Toutes les informations liées au conflit sont à suivre en direct, minute par minute, sur RFI.fr. Le carburant qui manque cette fois à Cuba, l'île communiste plongée dans une crise économique et humanitaire accrue depuis le début du blocus pétrolier des États-Unis en janvier. Les Nations Unies ont proposé cette nuit un plan d'aide d'urgence à Cuba portant notamment sur la livraison de carburant. Le coordinateur de l'ONU dans le pays dit vouloir maintenir en fonctionnement les services essentiels destinés aux personnes les plus vulnérables et sauver des vies. L'ONU et sa force en Centrafrique au cœur des questions. La MINUSCA est-elle en train de plier bagage en République centrafricaine ou s'agit-il simplement d'une réorganisation stratégique de ses actions sur le terrain? La question alimente les débats et les inquiétudes dans la population ces dernières semaines, alors que de nombreuses bases de la mission onusienne ferment progressivement leurs portes, parfois après plus de 10 années de présence continue. Les rumeurs persistantes d'un retrait définitif ont poussé la mission de l'ONU à réagir. Démenti formel lors de sa conférence de presse hebdomadaire hier. Rolf Steph Domielleux.
Dans plusieurs régions concernées, les habitants redoutent un retour de l'insécurité autrefois contenue grâce à la présence des casques bleus. Le 19 mars dernier, la base de Dekwa a officiellement fermé ses portes, marquant une nouvelle étape dans ce processus. Pour de nombreux habitants, cette décision ravive la peur des groupes armés. Maintenant, nous craignons d'être en proie aux attaques et aux exactions. Est-ce qu'on va aller au champ, circuler sur les pistes rurales ou pratiquer le commerce? S'interroge Suzanne, une habitante de la localité. De son côté, la MINUSCA évoque des contraintes financières importantes. Selon le commandant de la force Yumfrey Nyon, la mission prévoit de fermer au total 21 bases d'ici la fin du mois de mars 2026. Il précise toutefois que la plupart de ces installations étaient temporaires et que leur fermeture ne signifie ni retrait des troupes, ni abandon des populations. Les bases fermées sont désormais remises aux autorités centrafricaines et aux forces armées centrafricaines, premiers responsables de la sécurité dans le pays. Un message de réassurance également porté par la porte-parole de la mission Florence Marshall qui insiste, cette réorganisation n'est pas un retrait définitif du pays. Rolf Steve de Merle, Bangui, RFI.
Dans l'actualité également, en bref, cette résolution portée par le Ghana, votée hier à New York, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé la traite des esclaves africains comme le plus grave crime contre l'humanité. Une décision non contraignante, mais malgré tout historique, selon le président ghanéen John Dramani Mahama. Trois pays ont voté contre, les États-Unis, Israël et l'Argentine, pendant que 52 autres se sont abstenus, notamment le Royaume-Uni et les États membres de l'Union européenne. La résolution appelle les États à s'engager dans un processus de justice et de réparation. Vous en reparlez dans quelques minutes. C'est à la une d'Appel sur l'actualité avec Juan Gomez. Et puis juste avant, on termine ce journal en Suède où le gouvernement franchit une nouvelle étape dans le durcissement de sa politique d'immigration. Il confirme un projet de loi très critiqué qui obligerait plusieurs administrations comme l'assurance sociale à signaler à la police les migrants soupçonnés de séjourner illégalement en Suède. Correspondance à Stockholm d'Ottilia Ferré.
Elle est surnommée la loi de délation et elle est évidemment très controversée dans le pays. Elle vise à obliger 6 administrations, l'Agence pour l'emploi, l'Assurance sociale, l'administration pénitentiaire, l'Agence de recouvrement des dettes, l'Autorité des retraites et les impôts, à signaler à la police les migrants qu'elle soupçonne de séjourner illégalement en Suède. Si nous ne parvenons pas à maîtriser cette société parallèle, elle s'installera durablement et finira par se pérenniser. C'est ce qu'a jugé le ministre des Migrations, Johan Forssell, lors d'une conférence de presse, et il a aussi donné quelques quelques détails supplémentaires.
Si une personne ne coopère pas avec la police, il sera alors possible, par exemple, de saisir un téléphone portable afin d'y rechercher les copies de documents d'identité. Nous allons aussi conserver des données biométriques, comme les empreintes digitales, pendant une période plus longue. Les services de sécurité auront également un accès direct à ces données. Il s'agit donc d'un ensemble de mesures destinées à renforcer les expulsions.
Les critiques dénoncent des mesures floues et potentiellement arbitraires qui pourraient fragiliser les droits des migrants, transformer les administrations en outils de contrôle et pousser des milliers de personnes à vivre encore plus dans la clandestinité. Si elles sont adoptées, ces dispositions entreront en vigueur le 13 juillet prochain. Otilia Ferré, Stockholm, RFI.
RFI 9h10 à Paris, c'est à vous, Juan Gomez.
Merci Julien Coquel-Rohem. On revient dans 30 secondes à la radio et en vidéo, en direct sur la chaîne YouTube.
Ce vendredi sur RFI, les dessous de l'infox avec Grégory Jemelin.
tout savoir sur votre ville et ses petits secrets, Radio Corbeau.
Allez, laissez tomber, maintenant.
Radio Corbeau.
Ce serait plutôt de vous occuper de cette radio, elle est illégale. Bien, vous n'avez qu'à porter plainte.
Et sinon, changez. Pour le mix des cultures, c'est sur le 102.4 à Évreux, 95.9, dans le sud de l'Eure, et sur www.principactif.net.
pleure, c'est ma jeunesse que l'on blesse. Gros, demande à mes youths, les frappes lasses. Qu'on s'ajoute pour leur système, ils représentent une menace. Gros, demande à Capotor, 100% militant quand il en parle, c'est l'État qu'on fait des tonnes. Gros, demande à Public Enemy, à quel moment les citoyens du système sont devenus des ennemis. Gros, je présente mon ghetto family.
Shotgun slamming in your chest piece, blah.